Salut les Bird copains et les Bird copines, et bienvenue dans The DC Alternative. Je suis Sofiane et avec moi le Black Max.
Oh, pas mal celui-là.
C'est pas mal.
Un de mes préférés pour le moment.
On va vous parler de Birds of Prey, la dernière sortie du DC Extended Universe.
Ou Worlds of DC peut-être.
Oui.
On sait jamais sur la...
Il y a Siri qui pensait que je lui parlais, mais non, je parlais de DC. Et ouais, bon, on va faire un petit topo... Avant, on l'a vu quand ? On l'a vu mercredi dernier ?
On l'a vu le jour de la sortie, ouais. On l'a vu ensemble.
La sortie. Toi, tu l'as revu depuis ?
Je l'ai revu, ouais, mais vraiment pour me le remettre en tête, quoi. C'était pas une version très agréable à voir.
Parle pas de ça, oui. Qu'est-ce que t'en as pensé ?
Bah, moi, j'étais plutôt content du résultat parce que j'avais pas mal d'attentes. Et honnêtement, j'étais plutôt satisfait, même si on en discutera. Il y a des soucis et des trucs un peu inégaux dans le film, mais... Honnêtement, des propositions de DC dernièrement avec Joker, moi je trouve que ça va dans une direction qui est assez intéressante où ils essayent des choses dans des sens différents et pour le moment, moi ça me va. Enfin, j'ai été plutôt content du film.
Et moi, je suis un peu moins content, ouais. Comme je l'avais dit en sortant du film. Mais déjà, je tiens à dire que le film est à des années-lumière de Suicide Squad.
Ouais, ça c'est clair.
Il faut le dire, parce que si vous avez peur de voir le film, parce que vous vous dites que ça va être comme Suicide Squad ou quelque chose comme ça, non. Non, déjà il y a un peu plus de... Le film a un sens. Il a une narration qu'on voit pas souvent dans les films de super-héros, mm-hmm. On peut le dire. Moi le petit problème que j'ai, c'est... En fait c'est plutôt avec les personnages comme Deadpool et Harley Quinn qui sont limite à te faire des clins d'œil pendant tout le film. Et là j'avais l'impression de regarder une sorte de Deadpool aussi. Enfin,
bon, il y a pas mal de ressemblances entre les deux de toute
ouais,
façon.
Voilà. Donc ça c'est plus un problème avec ces deux personnages que j'ai. Mais sinon en tant que tel... Il y a certains trucs que j'ai trouvé un peu longs par-ci par-là, notamment les scènes d'action qui parfois durent un bon 10-15 minutes et ensuite t'enchaînes avec une nouvelle scène d'action où c'est un bon 10-15 minutes, c'est elle qui frappe avec sa batte ou qui frappe avec son mallet. Et même si les scènes d'action sont plutôt impressionnantes, on peut le dire, violentes aussi quand même, plus violentes que ce qu'on voit.
Ouais, un peu barré. Enfin,
y a beaucoup de jambes cassées, on peut le dire.
Ah oui, ça c'est clair.
Et ouais, je trouve qu'il y a des moments où je regardais un peu ma montre à me dire bon, ça fait quand même 15 minutes que cette scène de combat dure.
Mais il a quelques problèmes de rythme, ça c'est clair.
Ouais, voilà. Sinon, Margot Robbie est top.
Ouais. Bon,
Margot
ça, c'est
Robbie, bien plus que dans Suicide Squad, mais en même temps, on lui a pas donné grand-chose dans Suicide Squad, on peut le dire. Ses fesses étaient filmées tout le temps, ses seins étaient filmés tout le temps. C'était vraiment
et puis en plus,
du male gaze au possible.
Et puis on a un peu de recul maintenant sur la production du film, et on sait qu'elle a détesté... Le tournage, en fait, que ça soit avec Jared Leto ou même la façon dont elle était filmée, les habits dans lesquels elle était pas à l'aise du tout. Fin...
Ah ouais, elle était pas contente.
Elle parlait des affaires, en fait, elle avait super froid, il me semble, sur les tournages en extérieur parce qu'elle était en mini short et en petit t-shirt, quoi.
Ah ouais.
Et là, on sent déjà, rien qu'au niveau des costumes, qu'il y a une autre envie, d'autres.
C'est plus. Qu'est-ce qu'un personnage comme Harley Quinn pourrait porter C'est pas forcément sexy, c'est pas forcément si, c'est plein de couleurs, c'est plein de... Il y a vraiment, au niveau des costumes, ils ont fait un plus grand effort quand même à ce niveau-là.
Ouais, et puis c'est vachement moins sexualisé pour le coup. Quoi.
Ouais.
C'est sexy, mais c'est pas sexualisé, je trouve. Enfin...
Même aucun des personnages féminins n'est sexualisé dans le film. On sent que c'est réalisé par une femme, le film.
Et écrit par une femme aussi.
Cathy Yan, qui est la première femme asiatique à réaliser un film de super-héros, donc c'est pas mal. Mm-hmm. Et c'est écrit par Christina Hodson, donc ouais, c'est un duo de femmes qui ont fait le
film. Pour le coup, c'est à saluer quoi, dans le monde des adaptations de comics.
C'est rare, parce que même par exemple Captain Marvel, c'était un couple... C'était un mari et une épouse.
C'est ça.
Ouais.
Après, le seul précédent, en fait, c'est Patty Jenkins sur Wonder Woman.
Ouais, c'est ça.
Où il y avait vraiment une femme réalisatrice.
Donc DC continue quand même dans le bon sens.
Ils ont quand même toujours eu une petite longueur d'avance à ce niveau-là, je trouve.
Marvel souffrait de Ike Perlmutter à l'époque, qui était sexiste, qui faisait tout pour bloquer. C'est pour ça qu'on n'a pas eu de film Black Widow à partir jusqu'à maintenant. Mm-hmm. Parce qu'il y avait un mec en haut au niveau Marvel, mais là il est parti. Donc je pense que.
Bon, il a été mis à la porte, même.
Il a été mis à la porte.
Gentil.
Je pense que ça va aller mieux pour Marvel à ce niveau-là. Hein,
oui.
Parce que.
Bah, déjà,
Kevin
il commence
Feige,
la phase 4 avec un film sur une femme. Donc,
oui, c'est vrai.
En termes de symboles, ça se place là déjà. Quoi.
Réalisé par un homme
ou... Réalisé par une femme aussi.
Par une femme aussi. Bon, bah voilà, ils sont dans la bonne direction. Margot Robbie a pitché le film depuis 2015 en disant que Harley marchait mieux avec beaucoup de personnages plutôt qu'en solo, parce que Harley elle aime bien parler aux gens et donc ça marche
évident.
Beaucoup mieux avec plus de personnages. Et elle a bossé sur le film pendant 3 ans avant que Warner accepte. Donc. pas très sympa de la part de Warner. Eux, ils voulaient un film Harley Quinn solo. Et elle avait cette idée-là de faire Birds of Prey.
Je pense aussi que Suicide Squad a dû mettre un joli bazar dans tout ça, parce que entre la réception du film, le personnage d'Harley Quinn qui a quand même été apprécié de façon générale.
Tous les cosplays, Halloween à chaque fois, c'était le Joker et Harley Quinn. C'est vrai que quand même, on peut dire que le personnage, au niveau du look, etc., il a marqué quand même.
Même les deux mèches de cheveux, il y avait un potentiel de se réapproprier le personnage qui était assez fort, je trouve. Avec Suicide Squad, malgré tout ce qu'on peut en dire, quoi.
On dit des couettes.
Ouais. J'ai dit quoi ?
Des mèches de cheveux.
Oui, mais tu sais, une mèche de chaque couleur. Oui, c'est vrai que c'est des couettes
c'est
aussi.
C'est des couettes. Et ouais, donc c'est intéressant. Donc Margot Robbie produit aussi le film.
Ouais. Et elle le produit d'ailleurs avec Brian Uckles, avec qui elle avait déjà fait Itonia, où elle était aussi productrice. Je sais pas si tu avais vu ce film, mais qui était. Moi, j'avais trouvé un super film.
Ça va.
Et on sent qu'elle est vraiment attachée au personnage et au projet, et qu'elle a envie d'en faire quelque chose d'un peu plus respectable, quoi.
C'est juste marrant qu'on fasse un film sur la méchante. Itonia, c'est un gros film sur la méchante.
Hein.
Et pendant tout le film, on lui cherche des excuses et tout. Enfin, c'était un peu ça que j'avais. Par contre, elle est au top, comme d'hab, quoi. Mais Margot Robbie, dans la plupart des films.
J'ai pas encore vu Scandale, mais en tout cas, enfin, que ça soit.
Elle a été nommée pour ça.
Ouais. Sa performance dans Once Upon a Time in Hollywood cette année, qui était. Particulière, enfin c'est un travail d'artiste qui est particulier,
ça marche très bien.
Mais c'est super beau, quoi. Et dans ce rôle-là où elle joue quelque chose de complètement différent, elle est à fond et elle s'éclate et tu le sens vraiment, quoi.
Pour les rôles d'Huntress et de Black Canary, on aurait pu avoir Alessandra Daddario, Blake Lively, Vanessa Kirby, Sofia Boutella ou encore Janelle Monáe.
Ça aurait été cool.
Ça aurait été cool.
Ouais, c'est clair.
Le budget est de 82 millions, peut-être plus, on n'est pas sûr.
Ouais, c'est aux alentours de 80 millions, en tout cas en termes de production. Quoi, sans compter,
Et pour l'instant, au box-office, ça fait 83 millions. Donc ça rentre dans ses frais.
En une semaine, là,
1 million.
Ça, hein.
Ouais, le film n'a pas marché.
Non.
Il n'a pas très bien marché.
Il n'a pas marché comparé aux autres films de super-héros.
C'est ça. Si on se met à les comparer avec les grands Marvel et les trucs comme ça, là, c'est clair que le film n'a pas marché. Mais si tu le regardes. Parce qu'il ne pouvait pas marcher comme le Joker, quoi. C'était impossible. Le Joker a cartonné avec un petit budget. Mais si tu regardes, ils font encore un pas très très gros budget. 80
non, c'est
millions,
ça, c'est un peu dans le même système de production avec d'autres petites boîtes qui coproduisent aussi le film. Enfin, y a un schéma assez similaire dans la façon dont Warner fait ses nouveaux projets de super-héros, je trouve.
Y a un truc dont il faut parler, c'est tous les mecs qui sont soi-disant fans d'ici, etc., et qui se plaignaient du fait que les femmes n'étaient pas assez sexy dans le film.
Huntress
n'est pas habillé comme Huntress et que Black Canary n'a pas.
Même sur la façon d'habiller Harley Quinn. Hein,
ouais.
Not my Harley Quinn, j'en ai vu pas mal sur Twitter, c'est assez désolant, mais bon.
C'est chaud. Hein. On peut pas avoir les looks des comics parce que les looks des comics, ils sont dépassés depuis. Enfin, c'est plus possible, quoi. Déjà, il n'y a personne qui a les corps des gens dans les comics.
Oh non.
Tu connais des gens qui ont le corps d'Huntress, par exemple, c'est pas possible, quoi. Et ouais, donc ils disent que c'est à cause de ça que le film n'a pas marché, par exemple.
Moi, ça me désole si c'est ça la raison, quoi. Parce que franchement, quand tu compares ce film, je sais pas, à Ant-Man et la Guêpe, pour le coup, je préfère 100 fois voir ce film qu'Ant-Man et la Guêpe.
Mais il y en a qui le comparent aux Ghostbusters féminins, à
Ocean's 8.
Ocean's 8, soi-disant que c'était un film fait que pour plaire aux femmes, etc. Alors que. Le message, c'est vrai que le message est tourné autour de ça, sur le fait que les personnages féminins dans le film n'appartiennent à personne, parce que tout le monde essaie de les
se les approprier,
surtout le personnage de Black Mask. Et le message est très bon, je trouve, ça va, ça passe très bien.
C'est d'actualité, quoi, parce que la masculinité toxique et le fait d'utiliser les femmes presque comme des objets, quoi. Dans le film, c'est un peu. Il y a toute une scène assez, assez dure. Enfin, dure. Disons qu'elle n'est pas très cool dans le contexte du film, et elle montre bien ça, je trouve.
On passe au film ?
Il y avait juste un petit truc que j'aurais aimé dire, c'est sur la réalisatrice. En fait, c'est Margot Robbie et les autres personnes qui sont à la production qui l'ont repéré avec son film Ascendance, en 2018. Et c'est vraiment la façon, en fait, dont elle mettait en scène ces personnages, en fait, des personnages très différents qui cohabitaient, et ça a vraiment tapé dans l'œil de Margot Robbie qui l'a vraiment choisi pour ça, visiblement.
Bah franchement, si elle avait fait qu'un film
indépendant... Un premier film, ouais, elle vient vraiment du circuit indépendant, elle avait fait quelques
cours. Elle se démerde bien, elle s'est filmée une scène d'action et tout. Enfin,
bah, après, c'est pas elle qui s'occupait des scènes d'action, visiblement, c'est la seconde équipe technique qui était le mec qui réalise les John Wick.
Ah ok, d'accord.
J'ai mangé le nom, mais...
Bon, à partir du moment où tu ramènes les mecs de John Wick, moi je suis...
Bah, ça se sent qu'il y a quand même ce côté très moderne dans la façon de filmer les scènes
très,
d'action.
Très limite en une prise. Ouais.
Je cherchais juste le nom du film, voilà, c'est Dead Pigs, le nom du film.
Dead Pigs.
Okay. Qui parle en fait qui suit un éleveur de cochons, une jeune fille et un chauffeur de bus. Donc c'est vraiment des personnages assez différents qui cohabitent ensemble, quoi. Moi, je l'ai pas vu, par contre.
Bon, on passe au film ?
Ouais, allez.
C'est parti. I'm the one they should be scared of. Because I'm Harley freaking Quinn. On reprend pas très longtemps après Suicide Squad, non ? De ce que j'ai cru comprendre.
Alors ça, c'est un truc qui est... Voilà, c'est, on est dans le même univers.
On est complètement dans le même univers.
En même temps, on s'y accroche pas trop. Enfin, c'est assez...
Elle parle du fait fil, quoi. Elle parle du fait que Batman l'a arrêté. Mm-hmm. Donc ça, on le voit dans Suicide Squad.
Oui.
Elle dit que ça s'est mal fini avec Joker, etc. C'est un peu ce qu'on voit dans Suicide Squad. Mm-hmm. Je me rappelle plus de la fin de Suicide Squad. Je sais qu'il débarque à un moment dans le film et t'es là genre pourquoi il est là d'un coup. Et c'était genre le boss final et tu te dis pourquoi il a pas été là pendant tout le film. Donc Harley et Pauline se sont séparés et Harley décide de reprendre sa vie en main. Donc c'est pour ça que le titre en anglais c'est La Grande Émancipation de Harley Quinn.
Ouais. D'ailleurs, qui a été changé en français. Hein. C'est fantabuleuse histoire d'Harley Quinn.
Harley Quinn. Mm. Ils ont enlevé le mot émancipation alors que c'était très important.
Bah, c'est le mot qui est au centre du film.
Bah, ouais, voilà.
C'est un peu dommage. Mais bon. Et y a, ce qui est cool sur ce début de film, moi je trouve, c'est toute la scène en animation qui rend quand même vachement hommage au personnage qui vient à la base d'une
série
animée.
Mal,
quoi.
Ouais.
Et je trouve qu'il y a des bonnes vannes, des petites références dans tous les sens.
Les costumes, les références.
Même avec les bonnes sœurs, il y a vraiment tout ça qui revient. Et t'es pas perdu si tu connais pas, mais il y a quand même un vrai plaisir, je trouve, dans cette scène.
Ouais, il t'explique que Harley s'est fait abandonner par son père qui l'a échangé contre un pack de bière. Sa mère, je sais plus.
Bah, il me semble qu'elle est très peu présente. Hein,
très peu présente.
Même absente. Hein.
Et Harley Quinn, pour s'en sortir, après beaucoup de relations qui n'ont pas marché... avec des hommes et des femmes, donc ça ouvre la porte à Poison Ivy un peu plus tard. Elle décide de devenir psychiatre, ouais, donc elle passe son PhD, donc son doctorat, et donc le reste de l'histoire vous la connaissez, hein, je pense. Elle est à Arkham, elle
tombe sous le
elle
charme.
Aide Joker à s'en sortir, etc., etc. Donc pour enfin sortir de cette relation abusive, elle se coupe les cheveux. Elle se met au roller de compète.
Oui, roller derby, ouais.
Ouais.
Qui est aussi une référence aux comics. Hein.
Elle adopte une hyène qu'elle appelle Bruce. On se demande pourquoi. D'ailleurs, elle explique pourquoi et j'étais un peu déçu. Elle aurait pu laisser juste le Bruce. Et... Ouais, comme ce mec Bruce Wayne.
Comme le Bruce le beau gosse ou un truc comme ça. Enfin, le beau gosse Wayne.
Et elle fait péter Ace Chemicals. Alors, il faut savoir que le film est pas linéaire. Donc...
Et c'est en ça d'ailleurs qu'il se rapproche vachement de Deadpool, je trouve aussi, avec cette scène principale, donc là, qui est un petit peu représentée par le moment où elle arrive chez les flics, en fait, pour récupérer Cassandra. Et en fait, là, ça revient un petit peu sur la scène de Deadpool où on est sur l'autoroute, enfin, sur l'espèce de rocade et où on essaye de remonter le fil, en fait, de l'histoire, quoi.
Ça m'a vraiment fait penser à Deadpool, le film. Je l'ai préféré à Deadpool, je crois.
Moi, ouais, je pense que moi aussi, ouais.
Mais... Parce que j'avais vraiment pas...
Mais c'est vrai que toi, Deadpool, ça t'avait pas
non,
trop...
c'est pas trop mon personnage. Je crois que j'avais préféré Deadpool 2 au 1, alors que tout le monde avait détesté le 2, tu vois, donc c'est pour te dire. On rencontre Roman Sionis.
Dans son bar.
Ouais, qui aime découper les visages. C'est ça son truc. Ouais. Dans les comics, il fait pas ça.
Hein. Si,
il fait ça dans les comics.
Pas dans tous, il me semble. Mais
ah, ok,
moi, bah,
j'en ai jamais lu aucun où il coupe les visages.
Il me semble que c'est un délire qu'il a. Hein.
Qu'est-ce que tu penses d'Ewan McGregor?
Bon, moi j'avoue que j'ai adoré.
Ouais.
Je sais que toi t'as été moins fan, mais moi j'avoue que le voir un peu comme ça dans un rôle à contre-emploi où il se donne à fond.
Il a l'air de s'amuser.
Bah, il s'éclate, hein, ça se voit. Et puis,
mais c'est juste que il a trop une tête gentille en fait.
C'est ce que tu disais, c'est vrai qu'il a.
Une fois qu'il a le masque, ça passe, tu vois. Mais quand juste. Il a vraiment la tête du mec gentil, Ewan McGregor. Donc, pourtant, il a eu des rôles. On va dire Mark Renton dans Trainspotting, par exemple, c'est pas un rôle très sympathique.
Non, c'est clair.
Mais après, c'est peut-être à cause d'Obi-Wan.
Il y a des chances que dans l'imaginaire, ouais, ça joue quand même. Et d'ailleurs, il y a cette scène au début dans le bar, moi je trouve qu'il y a un des bons moments du film avec cette scène en plan séquence accéléré où tu récupères Harley Quinn à plein de moments différents quand elle gerbe, quand elle danse. Et je trouve que, en termes de réel, déjà, tu vois, c'est des propositions qui vont bien avec Harley Quinn, qui vont bien dans ce côté un peu déluré et un peu foutraque que t'as dans son esprit en fait. Enfin, c'est presque une image, enfin une représentation de sa psyché qui est complètement barrée. Et je trouve que ça fonctionne bien. Et de suite, c'est un des trucs qui m'a. Il y a plusieurs scènes un peu comme ça dans le film qui font plaisir à voir parce qu'elles osent des trucs quoi.
Harley Quinn donc qui avant avait un passe-droit auprès de tout le monde parce que bah, c'était la copine du Joker. Maintenant, elle n'a plus, surtout au moment où elle fait péter Eskimikos. C'est là où elle annonce au monde que ça y est, elle n'a plus rien à voir avec le Joker. Sauf que ça lui enlève la protection que le Joker pouvait lui donner. Et donc maintenant, elle doit apprendre à se démerder sans ça. Et elle le fait très bien, je trouve. Ça va, il n'y a pas... Tu sens par moment elle est perdue, etc. Mais je trouve que Harley Quinn toute seule, ça marche aussi bien qu'avec le Joker, personnellement.
Oui, ça c'est clair. Hein.
C'est pas...
Il y a eu plein d'œuvres autour d'Harley Quinn sans le Joker. Quoi,
parce que sa relation avec le Joker, il est cruel, il la traite comme une merde, il la balance toujours, il la frappe par moment, il fait d'autres choses. Et tu te dis... c'est difficile à regarder à chaque fois. Alors que quand Harley Quinn est libre, t'es là genre « you go girl ».
T'as presque envie qu'elle s'émancipe. Quoi. Enfin, c'est...
Parce que c'était un peu un problème. Il y avait beaucoup de gens qui idéalisent totalement la relation entre le Joker et Harley Quinn.
Ouais, alors que, pour avoir relu Mad Love il y a 2-3 jours, là, il y a plein de cases du comics où on voit qu'elle a peur parce qu'elle va se prendre un coup et c'est quasiment dans une case sur deux. Quoi.
Ouais.
Et ça fout mal, quoi. C'est une relation qui est hyper particulière et qui est fantasmée alors qu'elle ne devrait pas l'être, quoi.
Parlons de Victor Zsasz, qui fait sa deuxième apparition dans les films Batman, dans les films DC.
Il avait déjà eu une apparition.
Il était dans Batman Begins.
Exact, c'est vrai.
Il n'avait pas ses cicatrices, parce que là, il est comme dans les comics, il a les cicatrices. Ça veut dire une personne qui tue, il fait une nouvelle cicatrice sur lui, donc il en a plein sur tout le corps. Et il est joué par Chris Messina, qui est un très bon acteur de série télé la plupart du temps.
Sharp Objects, dernièrement.
Sharp Objects. Je me souviens aussi de lui dans Six Feet Under. C'est un bon acteur, c'est un très bon acteur.
C'est clair. Moi, je ne l'ai pas reconnu, j'avoue.
Non, c'est vrai
qu'il était dedans, mais...
Il fait le pur psychopathe de service qui pense qu'à tuer des gens.
Et moi, j'avoue que j'ai beaucoup aimé son personnage. Enfin, il l'interprète très bien et c'est un peu un rôle à... pas contre-emploi pour lui, mais disons que c'est un peu, ça change un peu de son registre. Et j'ai adoré, et surtout la relation avec Black Mask, quoi, qui est hyper intéressante, un peu relation gay refoulée. Enfin, il y a tout un truc entre les deux qui est un peu malsain. Et
ouais, ils ont un plaisir sexuel à couper les visages des gens. En fait, c'est ça. C'est plus ils arrivent à se retrouver dans ce petit truc là et ils partagent ces petits moments.
Je sais pas si tu te souviens, mais quand tu vois l'intérieur de l'appartement du QG de Black Mask, sur les murs, t'as des visuels horribles avec des femmes attachées avec des cordes autour du cou. Enfin, des trucs vraiment vraiment sanglants, quoi.
Ah, il est très dans le délire SM, de toute façon.
Ouais, Black c'est Mask. Ça. Enfin, il y a tout un délire un peu. En tension entre les deux qui marche vachement bien, j'ai trouvé.
On rencontre Dina Lenz, qui est chanteuse dans le bar de Black Mask, et elle se fait remarquer parce qu'elle sait se battre et donc elle devient sa chauffeuse. J'ai bien aimé, moi, Black Canary dans ce film. Black Canary, c'est un personnage. C'est vrai qu'elle est toujours habillée de manière sexy, etc. Et là, ils ont réussi un peu à l'adapter de nos jours, quoi.
Bah, surtout qu'en plus,
si on avait elle avec les collants à longueur de temps, je sais pas si ça passerait par exemple.
Mais là, ils sont un peu plus rapprochés de la version des comics où elle est dans un groupe. Enfin, elle a pas ce côté rocker parce que c'est pas vraiment. Enfin, elle chante pas du rock dans le film. C'est quoi? Elle chante It's a Man's World, je crois.
Ouais.
Et enfin, là, ce côté un petit peu artiste, je trouve, au niveau du design, et ça marche bien. En plus, la façon dont elle est filmée, je trouve que c'est complètement différent d'Harley Quinn.
Elle sait très bien se battre aussi.
Ouais.
C'est peut-être le meilleur, celle qui se bat le mieux dans le film.
Il y a des chances. Hein.
Ouais.
Si tu comptes pas les galipettes d'Harley Quinn.
Harley Quinn, c'est différent. C'est plus, elle utilise les objets qu'il y a autour d'elle, etc. Alors que là, c'est plus, elle sait se battre. Quoi. Elle met des coups de pompe, elle sait se battre. Quoi.
Et puis, dès le début du film, on t'introduit de façon assez discrète son pouvoir, quoi, qui est dans les comics aussi, où elle peut faire un souffle hyper puissant. Quoi.
Le cri du canari.
Exactement.
Pendant ce temps, René Montoya investigue une série de meurtres avec son meurtre autour d'une arbalète. Mmh. C'est la première fois qu'on voit René Montoya.
Bah, il me semble, hein. Dans les adaptations en film, ouais, il me semble bien.
Bah, elle, c'est comme Harley Quinn, c'est un personnage du dessin animé avant avant d'être un personnage des comics, hein, si je me trompe
c'est ça.
Toujours été un bon, j'ai toujours bien aimé René Montoya. Elle est lesbienne dans les comics. Là, ils font pas de référence.
Bah, si. La procureure, c'est clairement son ex. Hein.
Ah, c'est son ex, ouais. Puis bah, voilà, j'avais oublié. Mais j'ai oublié plein de scènes. Non, mais c'est vrai, le film m'a pas énormément marqué au point que je me disais, ah, il y avait cette scène-là. C'est plus tout mélangé un peu dans ma tête.
Bah, c'est un peu le problème du film, c'est qu'il a un montage très particulier. Mais je sais pas ce que t'as pensé du personnage de Montoya. Moi, j'avoue que c'est pas celui que j'ai préféré. Par rapport aux comics, mais par contre, j'ai trouvé que son personnage était marrant dans ce côté caricatural.
Elle joue le flic caricatural ou un peu comme le flic de The Wire, un peu la personne qui dit toujours la vérité, mais comme elle dit la vérité, elle se fait virer. Quoi.
C'est ça. Et son personnage, il est sympa. Et après, il y a tout ce coup avec le t-shirt que j'ai trouvé qui faisait un petit peu gros. Elle porte un t-shirt avec écrit, je sais plus ce que c'est écrit dessus, mais il y a une énorme phrase dessus.
Oui, je sais plus, un truc vraiment vulgaire.
Qui fait un peu in your face.
Très vulgaire en plus. Mais non, mais c'est parce qu'elle elle doit changer, parce qu'elle a mis un... Je sais plus ce qui lui arrive, mais elle doit changer. Et donc, elle se retrouve avec ce t-shirt dégueulasse. Mmh. Sionis veut récupérer un diamant qui contient les numéros du compte de la famille Bertellini. Donc, c'est la famille Bertellini, c'était une vieille famille du crime qui s'est fait assassiner. Ça fait très mafia classique. La famille Bertellini.
Bah, c'est le Gotham mafieux, quoi.
Ouais, voilà. parce que oui, dans le diamant, il y a le compte. On peut accéder au compte grâce au diamant.
C'est un code pour accéder au compte offshore où il y a plein d'argent.
Ça, c'est toujours les trucs où ils vont te compliquer les histoires.
Bah, c'est le MacGuffin du film.
Ouais, hein, voilà, mais ils sortent.
C'est clair et net.
On rencontre Cassandra Cain, qui est une pickpocket, et qui vole le diamant Azaz. Et donc, c'est là que l'histoire commence un peu à partir. Donc, le but, c'est. Et elle l'avale aussi, elle avale le diamant. Donc, le but, c'est pour tout le monde de récupérer Cassandra Cain.
Et ce qu'il y a à l'intérieur de son ventre.
Cassandra Cain, qui était Bad Girl dans les comics au début du siècle, je crois, hein, c'est ça. Début 2000.
Ouais, il y a des chances que ça soit par là.
Ouais, c'est ça, elle était Bad Girl.
C'est vrai que pour le coup.
Et elle était muette.
Ah oui ?
Ouais, elle avait je crois que son délire, c'était qu'elle était muette.
Ah, j'ai pas le souvenir. C'est possible. Hein.
Si, je crois.
Mais c'est vrai que son personnage est quand même assez éloigné de la version des comics.
Ouais, non, ça n'a rien à voir.
Je trouve que le personnage est cool. Il est.
Ouais, il est marrant.
Petit personnage marrant auquel tu peux t'attacher plus que les autres, quoi. Enfin, plus un peu plus normal, on va dire.
Moins insupportable que le gamin dans Deadpool 2.
Ah, bah, ça, clairement, ouais.
Là, on a une scène où Roman veut tuer Harley. Mais elle lui promet qu'elle va retrouver le diamant. Donc elle fait
très, très vite.
Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y avait ?
Non, bah, parce qu'il y a tout le passage avant où. Où justement, tu as ce montage à l'envers où elle arrive chez les flics, elle t'explique comment elle a rencontré Cassandra et Black Canary. Tu as tout ce passage-là.
Ouais, je me souviens, mais c'est difficile à raconter.
C'est vrai que ça,
c'est
dur à raconter. Et du coup, elle se retrouve chez Black Mask qui pas la torture, mais qui la bastonne.
Qui veut lui couper le visage, quoi, classique.
La scène est très, très jolie, je trouve, en termes d'esthétique aussi, encore une fois.
Où c'est rouge, là, c'est ça ?
Non, c'est, la salle est plongée dans le noir, c'est sur la scène du bar, avec les espèces de statues avec des yeux, là. Et donc, tu as toute cette espèce de vision qu'elle a, où elle part dans son délire parce qu'elle se fait frapper, quoi.
Oui, elle a sa vision Marilyn Monroe. J'ai failli dire Marilyn Manson.
Qui, visiblement, c'était des scènes qui devaient être vachement plus présentes dans le film. Des scènes plus chantées, plus des scènes musicales.
Plus de rêves, de fantaisie.
Et qui ont visiblement été plus ou moins charcutées du film.
Ah, c'est dommage. Parce que c'est ça qui fait que ça sort un peu du lot.
Après les projections test, ouais.
C'est ça qui fait que ça sort un peu du lot, quoi.
Bah ouais, c'est vrai que c'est une... Enfin, ça fonctionne vachement bien avec le personnage, quoi.
Donc, on a une scène aussi où Harley se fait tout le poste de police avec un faux lance-roquettes.
Une longue scène d'action.
Longue scène d'action qui est suivie par une scène où Harley prend de la cocaïne et se fait tous les goons de Sionis. Donc, on a deux longues, très longues scènes d'action. Et c'est là que j'étais un peu...
Ouais. Après, je suis assez d'accord avec toi sur le fait que la scène est un peu longue. Et t'as pas trop de temps de reprendre ton souffle, mais je trouve que la scène d'action en elle-même, elle marche super bien, quoi. Que ça soit la partie où elle arrive avec son gun, avec des objets comme il y a dans les comics, où elle balance des espèces de capsules de confettis, de capsules.
Elle tue personne dans cette scène.
Non, mais et après t'as toute la partie donc où elle va libérer Cassandra Cain et où t'as toute cette scène sous l'eau. où elle fait des glissades pour faire tomber tous les gens qui sont enfermés dans les cellules d'à côté. Et je trouve que ça marchait super bien visuellement, c'était cool. Je sais pas ce que...
Ouais, non, les scènes d'action, etc., au niveau visuel, ça va, quoi. C'est juste que là, on nous en met deux d'affilée. C'était plus ça le problème que j'avais. C'est que genre, laissez-moi le temps de reprendre. Et ensuite, parce qu'ensuite, à la fin, ils te refont une énorme scène de baston. Ouais.
Qui est moins bien, je trouve, d'ailleurs, que celle-ci.
Qui est un peu moins... elle casse moins de jambes, quoi.
Ouais. Non, après, il y a des bonnes idées aussi dans la scène de fin de combat, mais... Je trouve que celle-là, visuellement, elle marche super bien. Les chorégraphies sont grave cool. Et puis, ouais, il y a des idées...
Mais trop de scènes pour moi. Trop de scènes.
Moi, j'avoue que franchement, c'est un des trucs pour lequel le film m'a plu. C'est vraiment les scènes d'action, même si je suis assez d'accord sur le fait que, ouais, il y en a un... Enfin, c'est mal dosé, en fait. C'est surtout ça.
Je pense qu'on aurait eu plus de temps à développer les Birds of Prey, tu vois ? Parce que c'est aussi l'un des problèmes du film. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Ouais. Mais c'est un film sur Harley Quinn, quoi. C'est pas un film sur les Birds of Prey. Ils auraient jamais dû mettre ce titre. En plus, elles deviennent Birds of Prey à la fin du film. Et
C'est vrai que ça arrive.
Et c'est balancé
tard,
comme
réunion,
si c'était bon. Et au fait, elles sont devenues les Birds of Prey. Et on passe à ce que Harley Quinn est devenue.
C'est ça. Mais c'est peut-être aussi pour ça qu'ils ont renommé le film au niveau côté marketing en Harley Quinn de point Birds of Prey, quoi. Alors qu'à la base, c'est Birds of Prey. Et Harley Quinn.
Enfin, Harley Quinn a déjà fait partie des Birds of Prey dans
quelques versions, mais c'est vraiment pas le personnage principal.
Non, c'est toujours ces trois-là.
Ouais, ouais.
Toujours...
Mais elle a fait quelques fois partie.
Et Oracle.
Ouais.
Ouais. On apprend que Huntress est donc la tueuse à l'arbalète. et j'aime bien, c'est qu'elle est, elle est socialement étrange.
Ouais.
Ça, j'ai bien aimé.
Mais c'est presque une parodie d'elle-même, en fait, enfin, dans ce côté femme qui veut se venger à la Kill Bill, tu sais, genre...
Mais elle sait pas avoir une conversation avec quelqu'un.
Elle est
toute timide et toute...
Cool,
c'est genre, elle tue plein de gens et juste après, elle sait pas quoi dire. Et ça, c'est dommage, j'aurais bien aimé qu'on la voit plus. Parce que, tu vois,
que
avoir des longues scènes d'action, on les voit un peu moins... On voit un peu moins les autres personnages, même. On voit beaucoup plus Black Canary, je crois. C'est peut-être le personnage secondaire du film. Mais Huntress, on la voit pas énormément. Quoi.
C'est un peu regrettable, ouais, parce que c'est vraiment un personnage qui marche bien.
Ouais, elle est drôle.
Et puis même les interactions, genre l'interaction qu'elle a avec Cassandra Cain, avec la petite voiture, je trouvais que c'était un truc qui marchait bien. C'est des tout petits trucs dans le film, mais qui rendent le personnage un peu consistant et qui font que tu t'attaches à elle, quoi.
Je me disais justement, avant de voir le film, je fais, si c'est juste une tueuse qui veut sa vengeance, etc., ça va pas être très intéressant sur le long terme. Mais elle est ça, et ils en rient, en fait. Ils se moquent un peu du fait que...
Ah bah c'est clairement une caricature du personnage d'Huntress des comics, quoi.
Ouais, ou même d'un personnage comme Batman, où il s'est entraîné pendant des années et des années, et il peut pas parler aux gens, ce serait marrant, quoi.
D'ailleurs, Harley Quinn, il y a Huntress dans le film, la vengeance, c'est vraiment pas la meilleure façon de soigner ses problèmes...
Bah, elle tue tout le monde au final.
Ouais, bah, clairement.
Donc, elle a survécu à la tuerie de sa famille. Elle veut se venger et récupérer le diamant au passage, elle aussi.
Je crois que c'est
elle
vraiment.
Le
elle veut vraiment éliminer les noms des mecs qui ont buté sa famille. Quoi.
Mais elle récupère le compte en banque à la fin, si je me trompe.
Ouais, mais pour justement faire l'équipe. Quoi.
Ouais, c'est juste pour ça.
Ouais, ouais c'est pour. En gros, ce qu'elle dit à la fin, Harley Quinn en voix off, c'est. Elle s'est servie de ça pour monter une escouade pour nettoyer la ville, en gros.
Bon, faut pas m'en vouloir, j'ai vu le film mercredi dernier et j'avais déjà oublié tout une heure après. Donc,
Et par rapport à...
Je suis déjà à la fin du film. On a fait 30 minutes.
Non, mais attends, j'ai essayé juste de retrouver. Parce que
le problème, c'est qu'il n'y a pas grand-chose. En fait, parce que c'est un film qui est tellement basé sur les flashbacks et les trucs comme ça, que si tu parles juste des scènes qu'on voit dans le film... c'est difficile.
Si, il y a une scène dont on peut parler quand même en revenant un peu dans le temps, c'est la scène du sandwich à l'œuf.
Oui, c'est vrai qu'il y a tout un délire où elle veut. C'est dans un
bodega,
du quartier. Ouais, parce que d'ailleurs, il y a ça aussi, ce délire où elle parle avec un mec épicier du coin. Ça m'a fait penser à Spider-Man.
Ouais, clairement.
Et ça m'a fait penser à Deadpool. Qui est aussi dans les comics, etc. Et c'est toujours le mec qui va parler...
Dans le film, c'est son pote du taxi.
Ouais, son pote du taxi, voilà.
Ces trucs-là, même j'ai perdu son nom, mais la personne âgée qui vit chez lui...
Oui, l'aveugle, là. Et ouais, donc c'est un peu le même genre de personnage aussi. Je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de similitudes avec Deadpool, quand même, dans ces films.
Oui, non, mais de toute façon, comme tu disais, c'est deux personnages qui sont assez proches dans la façon dont ils jouent avec... soit le lecteur ou le spectateur, là où tu as ce brisage de quatrième mur.
Ouais, là, elle raconte, elle a fait la voix off pendant tout le film. Parfois, elle se tourne vers la caméra, elle fait un clin d'œil.
En le revoyant, il n'y a pas tant que ça de voix off. Enfin, il y a pas mal de voix off, mais il n'y a pas tant que ça de moments où elle parle directement à la caméra. Où...
Mais il y en a quand même deux, trois.
Il y en a deux, mais je suis pas sûr qu'il y en ait plus que ça. Ouais. Dans mon souvenir, il y en avait plus que ça. Ouais.
Parce que Harley Quinn, c'est pas son délire, elle, normalement, de briser le quatrième mur. C'est vraiment Deadpool, ça.
Pas trop, non, mais disons qu'elle a un peu un rapport... c'est plus dans le fait où elle parle vraiment avec tous les autres personnages. Et où
elle et Joker, en fait, ils peuvent se tourner vers la caméra et faire un clin d'œil, parce que voilà, c'est ça leur délire, en fait. Là, on a donc la scène de grosse bagarre dans un parc d'attractions abandonné qui fait forcément penser au Joker. D'ailleurs, apparemment, il y a écrit « ha 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 » derrière.
Ouais, sur une vitre, en arrière-plan. Et puis, de toute façon, tu sens que c'est un endroit dans lequel elle est déjà allée avec le Joker parce que tu as l'espèce de planque pour les armes, tu as des fringues à elle dans un coffre. Enfin, il y a quand même toute cette paternité de Suicide Squad qui traîne.
J'aime bien, c'est que ça reste très fidèle aux comics, tout ça.
Ouais.
Parce que je réfléchis, mais dans les films... On n'a jamais vu le Joker emmener Batman dans un endroit comme ça.
Bah, Mask of Phantasm.
Ouais.
C'est le seul.
Et encore, c'est une ville du futur.
Ouais.
C'est pas vraiment...
c'est une espèce de parc d'attractions, ville du futur.
C'est une
ville
du futur. Non, parce que c'est Danny DeVito, enfin le pingouin, qui lui, il a ça en fait, dans Returns. Mais jamais on a eu le droit à,
non, mais c'est vrai, c'est
à vraiment ça, alors que dans les
tout le temps.
Dans les comics, dans les trucs, dans les jeux vidéo, n'importe quoi, tu peux le citer, il est toujours là, le Joker. C'est toujours son endroit.
Il va t'emmener dans un endroit un peu déluré.
Ouais, voilà. Qu'est-ce que t'en penses de cette bagarre dans le parc, là ? T'étais un peu moins chaud ?
J'aime bien toute la partie où tu les vois en fait se réunir et se rendre compte qu'elles sont toutes du même côté, en fait. Mmh. Et toute la partie action, j'aime un peu peu moins, même si je trouve qu'au niveau décor visuel ça marche super bien. En plus, encore une fois, genre il y a une scène où je crois que c'est Huntress qui fait des espèces de sauts sur des langues de statuettes. Enfin, il y a vraiment des bonnes idées pour bouger dans l'espace et tout. Tout le petit truc qu'il y avait dans les
Huntress, quand elle tue quelqu'un, elle déconne pas. Hein.
Ouais.
Genre, elle poignarde un mec à un moment et elle le poignarde genre au moins 40 fois.
Non, ça c'est
si quand elle descend dans le tube, là.
Dans le toboggan, oui,
dans
c'est
le
vrai.
Toboggan, elle est en train de elle est accrochée au mec et elle le poignarde comme ça.
Mais du coup, j'ai bouffé ce que
Huntress dans les comics. C'est vrai que c'est une sorte de Batwoman, enfin, elle a un côté comme ça. Là, le seul truc qui fait qu'on la reconnaît vraiment, c'est le fait que c'est une fille de mafieuse, en fait. Seul truc, quoi, qu'elle a commencé comme fille de mafieuse, elle a pas commencé comme fille de Bruce Wayne.
D'ailleurs,
Thomas Wayne.
Un petit truc que je me suis fait la réflexion par rapport à ça, le mec qui récupère Huntress quand elle est toute petite, c'est le seul mec de tout le film qui est, même si c'est un tueur à gages, qui est traité de façon un peu positive. Où il va avoir une action positive envers un personnage féminin.
Je me rappelle plus de ce mec.
C'est quand elle raconte son flashback, où je sais plus si c'est Harley Quinn. En gros, tu vois un homme de main en fait s'apercevoir qu'il y a la gamine qui est encore vivante sous les corps et qui va l'emmener du coup chez son père et son frère pour qu'elle se fasse entraîner et pour la sauver entre guillemets, quoi.
Non, mais c'est marrant à chaque fois ce genre de délire. C'est on t'emmène pour que tu puisses venger tes parents dans 15 ans. Genre, je peux pas aller à l'école, je pourrais pas juste aller à l'école. C'est tout le temps comme ça dans les films. Dina révèle son cri du canari, qui est très bien fait.
Ouais, c'est cool.
Qui ressemble à... Et c'est elle qui l'a dit sur Twitter. Elle a été inspirée par... comment ça s'appelle ? Injustice.
Ah oui.
Les jeux Injustice.
Ouais, carrément. Avec même la façon de faire le... La façon de faire le...
Ouais, elle le fait un peu en mode... C'est le même geste que parfois Cyclope, il fait quand il veut faire sauter ses yeux. Là.
Et j'aime bien la mort de Zaz aussi dans cette scène. Où tu sais, t'as Harley Quinn qui est complètement paralysée. Je crois que c'est Huntress qui le tue et puis elle...
Elle le tue parce que c'est le dernier...
Harley Quinn récupère la seringue que lui avait planté Zaz et elle le charcute encore. Enfin, je trouve qu'il y a des bons
trucs. Oui, pendant toute cette scène, elle tient pas trop debout et tout. Ouais. Parlons-en maintenant.
Ouais.
Tu le classes où dans les autres films d'ici ?
Moi, il sera dans le haut du panier, franchement. Par exemple, comparé à un Aquaman, j'ai largement préféré Birds of Prey.
Putain, j'avais oublié qu'il y avait eu un
Aquaman. Si tu comptes vraiment les films à partir de Man of Steel du DCEU, honnêtement, moi, il se place... Bah, il se place dans le haut du panier, hein, franchement.
C'est peut-être parce que le reste du panier...
Bah, le reste du panier n'est pas méchant. Mais par exemple, pour moi...
Aquaman,
sera...
il durait 3 heures et ouais. Je trouve que c'était trop. Quoi.
Bah, moi, j'avoue que Aquaman, faudrait peut-être que je le revoie, mais ma séance a été...
On le fera un jour, mais...
Cataclysmique.
Ouais, j'avais pas aimé non plus.
Je m'enfonçais dans mon siège petit à petit, mais...
J'avais pas tellement aimé.
Même s'il y a tout un côté aussi un peu délirant, qui était plutôt sympa dans le contexte du film, mais dans lequel moi, je suis pas rentré. Mais sinon, bah, y a BVS que je pourrais peut-être mettre au-dessus dans la version longue s'il faut vraiment pinailler, mais non, bah après, si, je sais pas si on compte Joker, parce que Joker est un peu en dehors de ça, mais...
Alors moi, tout en bas, il y a...
Justice League, Suicide Squad.
Justice League, Suicide Squad, Batman v Superman. Ensuite...
En fait, les meilleurs encore, films, encore, des nanas.
En bas aussi... Batman v Superman version longue parce que c'est la même chose mais en plus long.
Moi, je suis pas d'accord.
Je vais me faire plein de potes encore une fois.
Non, en fait,
je réfléchis. Shazam était sympa.
Shazam, avec un peu de recul, Shazam était plutôt cool quand
même. Ouais, Shazam était sympa si je me rappelle bien.
Ouais, ouais. Donc je pense qu'en fait ça serait Wonder Woman. J'aimais
surtout, quand il faisait il me foutait la musique de Rocky et il faisait des trucs avec ses doigts là. C'était surtout cette scène qui me faisait marrer. Mais c'est vrai que sinon, c'est quoi le prochain DCEU qui sort?
Wonder Woman 84.
Ah oui, c'est vrai. Mm. Bah voilà. Non, j'ai vu un poster avec elle en mode Valkyrie,
ouais,
limite,
avec
costume avec des grandes ailes. Mm. Ouais, ça rend bien. Mm.
Non, mais je pense qu'en
fait. J'ai aucune idée de quoi ce film il va parler, comment Steve Trevor y revient.
Si, ouais, je crois que ça y est, je pense que vu les dernières photos et ce qu'il y a eu, je pense que ça.
Bon, on le dit pas parce
que. Non, on n'en parlera pas, mais en fait, les meilleurs films DC sont ceux où t'as un casting féminin
en
tête de liste, quoi. Que ce soit Wonder Woman, Birds of Prey, honnêtement, moi je trouve que. Et Shazam, hein, que je mettrai en dessous quand même, mais.
J'arrive pas à me dire que Birds of Prey, c'est un des meilleurs. Et même Wonder Woman, que j'aime. J'adore le personnage et tout, j'ai toujours aimé Wonder Woman. Mais je trouve le troisième acte tellement affreux, quoi. Le troisième acte, c'est limite du troisième acte de Batman v Superman, quoi, tu vois, dans le genre.
Bah, y a un peu de ça. Hein.
Ils n'arrivaient pas encore à avoir une fin. Suicide Squad, c'était encore un faisceau dans les airs à la Avengers et 4 Fantastiques, là où c'était encore la même chose. Ça veut dire qu'au final, Man of Steel, c'était pas si mal que ça.
Mais, je crois que oui. Hein. Je pense que Man of Steel, en fait, c'est au milieu du panier. C'est entre.
Je suis en train de me dire. En fait, Man of Steel. Ouais, j'ai aucune idée de où classer. Pour moi, j'ai l'impression que tout est en bas. Genre rang F. Et un peu au-dessus, t'as. Non, là, au milieu, t'as Birds of Prey. Mm.
Est-ce que tu mets Birds of Prey au-dessus d'un Shazam ou d'un Aquaman?
Bah, Shazam et Birds of Prey ont tous les deux des idées qu'on voit pas trop ailleurs. Shazam, le fait que c'est un gamin, etc. Enfin, ça change complètement le délire du super-héros, quoi. Et je me rappelle à m'être marré pendant une bonne partie du film. C'est vrai qu'après, ça part en famille Shazam où ils sont tous Shazam.
Non,
et
mais bon. Ça c'était.
Ouais,
un
c'est
des
mignon,
trucs cool,
quoi.
Je
voilà,
trouve,
c'est
pour
mignon.
Le coup.
Ouais. En fait, non, genre, je vais pas classer les films d'ici.
En tout cas, moi, je pense qu'il
je
a quand
pas.
Même sa place en haut du panier.
Je peux pas. Ah, il y a des gens qui l'aiment pas, pourtant, ce film.
Birds of Prey.
Ouais, c'est encore en train de diviser tout le monde. Il y a ceux qui disent, eh, en fait, c'est plus sympa que je le pensais, comme bah, nous, quoi. Et ceux qui disent, ouais, les nanas.
Bah, moi, un des trucs pour lequel j'avais été déçu en sortant du film, j'en souviens, je t'en avais parlé, c'est je m'attendais à un film vachement plus drôle, en fait.
Ouais.
Alors qu'en fait, le film est plutôt marrant. Enfin,
il y a
des bonnes
même,
répliques.
C'est une comédie quand même.
Ouais, mais je m'attendais à un truc vraiment plus drôle et plus barré. Et c'est là-dessus que ça m'a un petit peu, un petit peu déçu. Que... Mais après, j'avoue que moi, j'ai pas grand-chose à lui reprocher au film, hein, mis à part sa ressemblance un peu avec du Deadpool. Et,
C'est bien la série animée, Harley Quinn
Bah, moi, je l'ai pas vue, mais j'ai vu.
Il paraît que c'est
échos,
super bien. J'arrête pas d'entendre les gens dire que c'est super bien. Mais bon, comme c'est Harley Quinn, je suis là, genre, je sais pas. J'ai vu juste une petite scène où elle disait que Batman il baise des chauves-souris et Gordon il dit non, il est une chauve-souris, il baise pas les chauves-souris, et Batman il a Gordon, calme-toi Gordon. Ouais, faudra que je regarde. Dites-nous ce que vous en pensez de Birds of Prey et aussi de la série animée Harley Quinn.
On va passer aux dernières scènes du film, hein, peut-être.
Ouais, Cassandra elle tue Roman avec une grenade.
Avant, il y a quand même toute cette scène aussi que je trouve sympa, où t'as la course-poursuite avec Huntress en moto et Harley Quinn sur les rollers.
Ah oui, c'est vrai.
Où elle monte sur la Rolls-Royce. Enfin, il y a des trucs un peu sympas, je trouve, en termes de mise en scène et de scène d'action. Mais après, oui, voilà, il y a cette scène finale qui est plutôt marrante.
Bon, les rollers, ça lui va bien, Harley Quinn.
Ouais, ouais.
Elle est faite pour avoir des rollers.
C'est fait pour elle. Cette mort de Black Mask, t'en as pensé quoi?
Bah, il se fait tuer par la personne qu'on imaginait le moins de le tuer. Bah, pendant tout le film, il est très... ça c'est à moi, ça c'est à moi, à moi, à moi, à moi. So, donc, donc oui, il devait mourir au bout d'un moment. Parce que quand, ça, quand t'as un petit riche qui a un but de sa personne comme ça, qui pense que tout lui appartient, ouais, il doit mourir.
Après, ça fait encore un film où... un méchant charismatique des comics passe pas un film quoi.
Ouais, ils avaient Lex Luthor mais il était pas charismatique.
Moi, je suis pas d'accord. Moi j'aime bien quand il est dans le surjeu, Jesse Eisenberg.
Ils ont laissé Lex Luthor en vie, même on le voit à la fin de quoi, de Justice League.
Non, c'est Justice League là, je crois.
League,
avec la scène post générique où il est en prison, où il se fait libérer ou je sais pas trop quoi.
Non, il est dans un bateau.
Ah oui, non, c'est ça, il est avec Deathstroke.
Ouais.
Exact.
Qu'on verra jamais.
Peu de chance.
De toute façon, tout ce délire-là de la...
Méfie-toi de James Gunn, hein, il peut nous faire des petits coups de Trafalgar.
De la League of Doom, c'est ça.
Ouais.
Hein,
ouais, c'était ça.
La League of Doom.
Mais j'aime bien la façon dont meurt Black Mask, et j'aurais aimé en voir un peu plus comme ça, tu vois, genre des trucs un peu plus sanguinolents. Enfin, le R-Rated s'y prêtait bien, quoi.
Ouais, on voit plus des membres se faire casser, des trucs comme ça, que du sang. Ça,
ouais, typiquement la scène d'intro où elle, est dans le, où elle explose les, mecs, les jambes du mec dans le bar.
Le chauffeur, ouais, son chauffeur.
Ouais, c'est ça.
C'est pour ça qu'elle se retrouve chauffeur. Ouais.
Et du coup, on finit sur la mise en place des vrais Birds of Prey, du coup.
Ouais, et les scènes là, elles sont pas top. Tu sens que le film, il accélère d'un coup finir et dire allez hop, on va faire... Et on est toutes copines et on fait la fête et ouais, on va tous aller...
Bah, il y a ce côté sororité, ouais.
Ouais, non, mais d'un coup, c'est que c'est un peu genre... tu vois, il n'y a pas eu... elles ont eu rare... Il y a eu très rarement de scènes où elles étaient toutes ensemble, en fait.
Ouais.
Il y a beaucoup... Quoi, elles sont combien 4
Bah, si tu comptes Cassandra, elles sont même 5.
Pendant tout le film, pendant tout le film, ils sont séparés, quoi.
Ouais, plus ou moins,
Les personnages...
Après, ça m'y fait penser, c'est un petit truc qui m'a un peu... Pas gêné, mais qui je trouvais un peu dommage, c'est le côté Gotham fait vraiment, genre, petite ville lumineuse de...
Ça fait New York, aussi.
Ouais, mais genre...
Je crois que c'est filmé à New York, non? Ouais, voilà.
Il y a des chances.
Ouais,
hein.
Ça fait très New York.
Mais ça... Tu sais, ça se passe de jour avec vraiment genre des rues ensoleillées. Quand tu vois Margot Robbie, enfin Harley Quinn dans les rues, ça fait très presque du San Francisco. Ou,
ouais, il
n'y
a que quand ils vont
ça.
À la fin dans le parc d'attractions que c'est la nuit.
Et mais... puis, en fait, tu as vraiment l'impression qu'elles sont que dans un seul quartier de Gotham, qui est du coup Gotham Est. Parce qu'en fait, c'est un... où est le Joker dans ce film, quoi. C'est un truc que je trouve un peu dommage.
Ouais,
c'est...
c'est bizarre parce qu'il se fait passer pour mort à la fin de Suicide Squad. On est d'accord, hein. Ça explose et tout, et il meurt dans l'explosion.
Et t'as tout ce truc avec Cassandra Cain qui ne connaît pas le Joker. Enfin, t'as des trucs un peu
bizarres.
Ouais,
elle est jeune.
Oui, oui, mais bon.
Parce que là, on parle d'un Joker que ça fait des années et des années et des années qui se bat contre Batman. C'est pas.
Bah ouais, mais du coup. Enfin, ça.
Parce que Jared Leto, il a quoi, 40 balais maintenant?
Ouais, je pense, même un peu plus. Hein.
Ouais.
Mais ouais, je sais pas.
Il vieillit bien, le salaud. Je peux pas l'encadrer, mais il vieillit bien, je lui donne ça.
Ouais, je trouve même pas, moi. Mais ouais, j'étais un peu déçu par ce Gotham. Même là, le passage de nuit avec Ice Chemical est pas mal, mais sinon, je sais pas, je trouvais qu'il manquait des fois un peu de. Alors qu'il y a plein de décors qui sont cool en intérieur surtout, mais en extérieur, je trouve que ça manquait un petit peu des fois de personnalité.
C'est surtout le bar de tout ce qui est en rapport avec Black Mask en fait, qui est super bien.
Ouais, ça c'est cool.
Les couleurs, l'éclairage, etc. À chaque fois qu'on va dans son bar ou dans son sous-sol ou ailleurs, dans tous ces trucs. D'ailleurs, son délire, c'est de collectionner les sortes d'armures et les masques et les trucs comme ça. C'est comme ça dans les comics.
Ouais, ouais.
Pourquoi il se met à porter des masques dans les comics, je me rappelle plus.
Bah, il me semble que c'est juste histoire de se créer une espèce de forme un peu maléfique, enfin pas maléfique mais
Ah OK, c'est juste pour faire peur aux criminels comme Batman quoi.
Je crois que c'est un peu ça. Hein.
Montoya, Black Canary et Huntress créent les Birds of Prey.
Montoya démissionne.
Oui, Montoya démissionne au passage. Et de leur côté, Cassandra et Harley vendent le diamant et commencent leur propre business de mercenaires.
C'est,
hein,
ça.
C'est ça.
Bah, en fait, je ne sais même pas si c'est mercenaires ou détectives
privés. Il est marqué plein de trucs sur la carte.
Mais ça, ce n'est pas la même carte. C'est une autre carte qu'elle présente à la fin du film en mode propre. Quoi. Mais à mon avis, c'est un peu ça. Ouais.
Comment ça se fait que Cassandra Cain se retrouve se retrouve avec Harley Quinn
Moi, je trouve ça pas mal. Hein.
Non, mais la pauvre, elle sait pas dans quoi elle s'embarque.
Bah, en plus, tu sais, t'as toute cette scène dont on n'a pas parlé où elles vont chez Harley Quinn au-dessus du restaurant asiatique, qui est un peu marrant, où on voit la hyène, tout ça, et je trouve que les scènes à deux avec la gamine passent plutôt bien.
Ouais, ça va.
Tout le moment où Harley Quinn l'enferme parce qu'elle veut la refiler à Sionis. Après, Cassandra lui en veut. Enfin, genre, elle l'envoie paître toutes les 5 minutes. Alors
mais c'est pour ça que je dis la pauvre, elle sait pas dans quoi elle s'embarque. Parce que Harley Quinn, elle change d'avis toutes les 2 secondes, en fait. C'est ça son truc. C'est vraiment le truc d'Harley Quinn, c'est de changer d'avis tout le temps. Quoi.
Bah, plus que de changer d'avis, c'est juste d'avoir des idées qui fourmillent dans tous les sens.
Elle a trop de voix dans sa tête. Et voilà.
C'est ça.
Elle souffre de quoi, Harley Quinn?
Bah, elle souffre d'avoir été martyrisée par...
Oui, non, ça c'est... Mais je veux dire, quel genre de maladie mentale elle a, Harley Quinn? Parce que ça a pas l'air d'être un psychopathe comme le Joker. Le Joker, il aime personne, il veut tuer tout le monde, il s'en fout de tout le monde. Elle, tu sens qu'elle aime les gens.
Ouais, c'est plus une absence de barrières sociales ou dans les relations sociales avec les gens, genre...
C'est qu'elle est complètement sortie de la norme et donc maintenant elle est dans la marche pour le reste de sa vie.
C'est ça. Ouais.
Un peu comme moi. On a une scène post-crédit ?
Ouais, qu'on n'a pas vue nous du coup.
Non, j'ai dit qu'on partait avant. J'en avais marre. Je me suis levé, j'ai fait.
Ça, de toute façon, c'était pas très grave. Mais...
Raconte-la, vas-y.
Ouais, j'ai le dialogue en entier. En gros, elle fait: Ah, vous êtes encore là ? Bon, je vais vous dire quelque chose, mais il faut le garder pour vous. Batman, elle dit en anglais, elle commence à dire fuck. Qui est bipé, et du coup qui est une référence à ce que tu disais tout à l'heure par rapport...
Ah, donc c'est ça donc...
Ouais, visiblement, ça a l'air d'être clairement une référence...
Batman fucks bats.
C'est
okay.
ça. Au fait que Batman se tape des
chauves-souris. C'est pour ça qu'on l'appelle Batman.
En fait, les meilleures vannes du film tournent autour de Batman, que ce soit la hyène ou...
c'est pas les Batman, vannes, c'est, mais... c'est une très bonne cible. Hein. Ouais. C'est quand même un mec déguisé en chauve-souris. Nous, on a fait quand même une dizaine d'épisodes sur lui. On s'est marré plein de fois en racontant regarde-le comme il a l'air ridicule. Par moments, il a l'air ridicule. On repense à The Dark Knight Rises quand il apparaît sur la glace. Il y a un truc super ridicule à propos de ce mec quand même.
Oui, oui.
C'est le mec qui peut être super cool, genre le summum du cool, juste parce que voilà, avec ses petites oreilles et tout. Enfin, si tu vois juste son ombre,
cette ombre dans la nuit,
et là il apparaît avec son costume de... Parce que les flics de nos jours, les flics, ils ont les mêmes costumes que Batman. Hein.
C'est,
non, mais c'est vrai.
Ils ont les petites pointes.
Ouais, les mecs qui tapent sur les manifestants, là, c'est le même. Ils sont habillés comme Batman, quoi. Voilà où on en est dans notre société. Nous vivons dans une société.
We live in a society. Un autre truc que j'ai envie de dire sur le film qui m'avait bien plu, c'est toutes les incrustes à l'écran. Que ça soit le fait que les gens...
C'est traduit en français à chaque fois, ça m'énerve. Je veux voir les vraies blagues.
Mais ça fait quand même plaisir de savoir qu'Harley Quinn vote Bernie Sanders.
Oui, Harley vote Bernie. Et ça a fait un peu le tour de Twitter d'ailleurs.
Ouais.
C'est qui qu'elle appelle Bernie ?
C'est Bernie, c'est le nom de la petite marmotte.
La petite marmotte l'appelle Bernie, et en plus elle vote pour Bernie.
C'est ça.
Donc ça veut dire que Harley Quinn, en fait, elle remonte grave
dans ton estime.
Non, mais ça m'étonne pas en même temps, tu vois.
C'est genre... Non, mais c'est bien, je trouve, de mettre des
films. Tu sens que dans le fond, elle a un bon fond, quoi. C'est pas comme le Joker aussi.
Mais en même temps.
Regarde, là, on vient de se taper un film sur le Joker où ils essaient de nous faire croire qu'il a un bon fond, mais au final, non.
Tout sauf un bon
c'est
fond.
C'est un psychopathe.
Et là où c'est bien traité, je trouve, dans Birds of Prey, c'est qu'il y a quand même plusieurs fois où on met quand même en avant le fait que c'est une nana qui a eu des diplômes, qui a fait des études et qui est cultivée, qui est devenue une psychiatre, quoi. Donc, c'est pas une idiote, quoi. Et le fait de dire qu'elle vote Bernie Sanders, à mon avis, c'est un peu lié aussi à ça, quoi, au fait qu'elle soit un peu éclairée, même si elle est complètement tarée. Quoi.
Bon, on a fait le tour.
Mm-hmm.
T'as rien d'autre ?
Je vais faire un petit tour de ce que j'avais noté.
Je m'attendais pas à ce qu'on fasse une heure. Je m'attendais à ce qu'on fasse moins, tu vois. Mais là, on est parti pour
faire. Et la musique, du coup ? Dont on peut
parler.
Oui,
la musique, parlons.
Qui est faite. Il y a pas mal de chansons déjà existantes qui sont dans le film.
Mm-hmm.
Et tu as la musique originale qui est faite par Daniel Pemberton, qui a fait la musique de. Les scores de Spider-Man New Generation, donc Into the Spider-Verse.
Qui est cool d'ailleurs.
Et on retrouve un peu ce côté mélange de musique. Et je trouve que la musique se mêle bien entre les scores originaux du film et la musique déjà
pop,
existante.
C'est pop, quoi.
Ouais, mais je trouve que ça se lie un petit peu.
Je repense à Suicide Squad, qui nous fait un montage de 30 minutes avec 6 chansons dedans, avec chacun ils ont leur chanson, et c'est des chansons qu'on a tous entendues un milliard de fois. Ils mettent du Queen, du House of the Rising Sun, une chanson qu'on a vraiment entendue trop dans les films. Ils te mettent du Eminem et tu te dis, mais on est à quelle époque pour que tu mettes du Eminem? On est quoi? On est en 2003? Là ça va, j'ai pas remarqué, j'ai pas remarqué ni dans le bon sens ou le mauvais.
Mais par contre, les musiques d'artistes faites pour le film sont vachement cool aussi, même si moi c'est pas trop mon style de musique. Mais je trouve que les musiques se prêtent vachement mieux au personnage d'Harley Quinn. Et,
on a qui
Je connais pas les noms de ces artistes, mais c'est plutôt R&B. Enfin, pas R&B, mais disons.
Rap R&B.
Ouais, c'est ça. Et
Le rap de nos jours, quoi, c'est une sorte de rap
avec
pop,
un peu de trap,
danse,
et de la pop, ça passe plutôt bien. Et donc le Daniel Pemberton, qui est quand même un mec moi que j'aime beaucoup au niveau de la musique. Genre, j'ai vu un des derniers films dont il a fait la musique, c'est Brooklyn's Affair avec Edward Norton, qui est plutôt moi j'ai bien aimé, et il fait un super score sur ce film là, un film qui est sorti cette année là. Et c'est un mec qui a plutôt des bonnes idées.
Il fait quoi, Edward Norton, de nos jours?
Edward Norton, il réalise ce film-là.
Ah, ok. Brooklyn's Donc, il est devenu réalisateur maintenant.
Il joue un mec qui a le syndrome Gilles de la Tourette, qui est un espèce de détective privé.
Ok.
C'est plutôt un film sympa, un espèce de film d'enquêteur dans Brooklyn.
J'ai rencontré quelqu'un qui a ce syndrome il y a 2 mois. Et je l'ai découvert parce qu'il se mettait à me dire shut the fuck up et des trucs comme ça. Et je fais quoi? Et là, il m'explique et je fais ok. Mais c'est impressionnant la première fois parce qu'on est en train de parler tranquillement et d'un seul coup il se met à m'insulter. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas pourquoi je raconte cette histoire. Voilà, désolé. C'était la vie de Sofiane.
Et du coup, sinon, il a fait la musique d'Ocean's 8 aussi et la musique de Steve Jobs de Danny Boyle. Pour donner un petit peu.
Steve Jobs, j'avais oublié celui-là.
Qui avait des bonnes idées de réal, mais qui n'était pas le film le plus ouf du
monde. Ah non.
Donc voilà pour Birds of Prey.
Voilà pour Birds of Prey, un petit film sympathique qui casse pas des briques non plus.
Non, mais qui fait un petit vent frais. Moi, je trouve qu'il a fait bien plaisir.
Ouais, je suis sûr que si ce film était sorti avec l'étiquette Marvel, les gens se seraient tapé le cul par terre.
Il y a des chances. Hein.
Ils auraient dit ouais, regardez Marvel, ils font enfin un film avec des femmes et machin, et c'est super et c'est top. Et regarde, les gens se sont tapés le cul. Enfin, certaines personnes ont fait la même chose avec Captain Marvel, alors que Captain Marvel était pas génial. Quoi, tu vois.
Mais je trouve que, par exemple, là-dessus, sur ce côté un film avec des propos féministes, je trouve que Birds of Prey le fait de façon vachement plus intelligente et subtile que Captain Marvel, qui était quand même un peu plus rentre-dedans. Quoi. Et moi, je trouve que en termes d'actionneur féminin et féministe, je trouve que Birds of Prey, il se place là. Et
parce que Wonder Woman, ça avait beau être fait par une femme, un personnage, c'est tu sens quand même que c'est un peu fait pour les hommes, Wonder Woman. Il y a toujours eu ce côté guerrier. Enfin, tu sais, il y a toujours eu ce côté.
Elle est dans les tranchées avec que des mecs.
Voilà, il y a quand même un côté. Voilà, la guerre et tout. Enfin, il y a quand même un côté.
Mais elle était bien iconisée pour le coup.
Ouais.
Ça, par contre, on ne peut pas.
Ah, carrément, ouais, quand elle sort de la tranchée et tout. Qu'est-ce qui se passe dans le monde en ce moment?
Oula, il s'en passe des choses.
Il s'en passe des choses.
Par quoi on commence?
Je propose qu'on commence par la surprise du chef, Sam Raimi. Pourrait réaliser le prochain Doctor Strange. Et on a tous eu un petit instant de pause quand on a appris ça. Et je pense qu'on a tous eu un grand sourire aussi.
Ouais.
Tu sais, il y a un côté genre Sam Raimi revient. Il a quand même fait les meilleurs films de super-héros de notre enfance.
Bah, il a fait une trilogie qui a marqué.
Il y en a au moins deux qui sont bien. On parle pas du 3, on a dit. Mais même Sam Raimi en tant que tel, c'est un bon gars, c'est un vrai cinéaste, c'est un vrai cinéphile. Ça fait plaisir de le revoir, en fait.
Et puis, sachant le film sur lequel il vient, il y a quand même moyen d'avoir des trucs qui peuvent être quand même assez intéressants. Quoi.
Tobey Maguire. Tobey Maguire qui est dans un multivers. Où c'est le Spider, il y a Kirsten Dunst et tout. Ce serait trop classe, genre il passe pendant 2 secondes dans un multiverse et il arrive et il y a Tobey Maguire. Ah, ce serait trop bien.
On serait pas prêt, je crois.
Ah non, là ça ferait exploser le monde,
sachant qu'en plus il y a des infos par rapport au multivers de Sam Raimi traîne en ce moment. Bon, on en parlera après, mais
il veut faire
il y a encore une image de Morbus qui est sortie où t'as des,
comment il s'appelle son acteur fétiche?
Ah, celui qui joue dans tous les films.
Ouais.
Ah, j'ai mangé son nom.
Merde, il est super, c'est un super gars.
Ah,
Ah, je sais plus son
qui
nom.
Fait le serveur et qui fait
voilà.
Le mec au... qui empêche Peter Parker de rentrer pour voir le spectacle de.
Ouais, c'est ça. Bah, lui, il sera forcément dans le film.
Il y a des chances.
Logiquement, tout ce qu'on savait pour l'instant de ce film, c'est que c'était soi-disant un film d'horreur.
En tout cas, un film avec un petit côté horreur.
Là, si on a Raimi,
vraiment sur un film d'horreur. Mais...
Là, si on a Sam Raimi, on a quand même un mec.
Une valise de pied dedans, quoi. Parce qu'il Evil Dead 2.
Ouais, non, voilà, on a un mec qui est.
Qui aime ça.
Voilà. On sait aussi que c'est lié à Vandavision. Mm. Donc, il y aura un lien entre les deux. WandaVision qui me donne vraiment envie, bien plus que toutes les autres séries Marvel qu'ils ont proposées pour l'instant.
Et un autre truc qu'on sait par rapport à Doctor Strange 2, c'est que Rachel McAdams ne sera pas de retour.
C'est pas
forcément
en même temps,
une surprise, mais...
La pauvre, ce qu'on lui a donné, quoi. Bon, après, je sais que c'est une actrice qui aime bien faire les comédies romantiques et les trucs comme ça, mais elle a eu bien plus de chance quand elle était avec Ryan Gosling, là, que... Non, mais c'est vrai, on lui a rien donné dans ce film, quoi. Et ça, c'était un gros problème. Tu vois, pour Marvel qui veulent se la jouer un peu féministe sur les bords et tout, quand tu regardes les personnages féminins dans tous les premiers films de Marvel, Natalie Portman, la pauvre, elle a pas eu grand chose à faire. Il y a que Pepper Potts, en fait, qu'on en avait déjà parlé, je crois, une fois, où on avait dit que il y a que Pepper qui était vraiment
parce que même Black Widow dans Iron Man 2 au final,
Black Widow, il a fallu attendre je sais pas combien de films, il a fallu attendre Winter Soldier
pour
qu'on la trouve intéressante. Elle avait fait quand même pas mal de films avant, quoi. Deux, trois ? Je sais plus.
Au moins Avengers et...
Et Iron Man 2.
Et Iron Man 2. Ouais. Donc ensuite, on a les trailers. Un espèce de spot pour Disney+, avec les séries...
On n'en a pas parlé de
ça ? Il me semble pas qu'on en avait parlé.
Ouais, donc on a eu ce trailer avec donc WandaVision, qui se penche sur les séries, qui fait beaucoup d'hommage aux sitcoms de toutes les décennies.
Ouais. Clairement.
Les années 50, 60, 70, 80 et 90.
Sitcom,
mais vraiment, tu mets pause et tu regardes. Où on voit Wanda habillée en Scarlet Witch. On a l'impression que c'est un costume d'Halloween.
Ouais.
Il y a un côté...
fake. Ouais, enfin, pas fake, mais...
Et un côté cosplay. Donc on voit... ça a l'air...
de ce qu'on en voit, ça a l'air d'être vachement proche du Vision de Tom King, et ça peut être vraiment très intéressant, hein, parce que...
Ouais, j'ai pas lu ça, mais c'est Vision qui se crée sa propre famille, c'est ça.
Et il y a vraiment moyen d'avoir des choses en termes de réel. Bah, après, c'est une série, donc faudra voir comment ils jouent avec ça, mais des phases d'hallucination qui peuvent être très très cool, hein, sur Wanda qui se crée son propre univers.
Et ces deux personnages qui ont été un peu laissés à l'abandon, on peut le dire... Elle a rien eu. Elle a quelques petits moments badass par-ci par-là dans les films.
Je trouve que dans les deux derniers, Infinity War et Endgame, elle a quand même eu un.
Ouais, mais quand tu la compares à celle des comics,
oui, non, c'est clair qu'elle
est un personnage super important, très intéressant,
un des plus puissants de l'univers,
qui tue tous les mutants elle toute seule. On en est quand même. Parce qu'elle a des super pouvoirs. Enfin, les pouvoirs qu'elle a dans les comics, ça a rien à voir avec juste l'évitation des objets et balancer des boules de feu
clairement.
Des lasers.
Mais je trouve que tu vois dans une des dernières scènes d'Endgame où elle se retrouve face à Thanos, on sent vraiment son potentiel et on sent qu'ils veulent quand même essayer de la remettre sur un piédestal, et ça c'est cool parce que
Et Vision.
Vision
il avait une ou deux scènes cool dans Age of Ultron, les quelques scènes cool d'Age of Ultron, justement. Quand il chope le marteau et la scène de fin où il parle à Ultron et ils expliquent qu'il le tue et tu vas travailler avec eux, tu vas travailler avec ces humains, pourquoi tu fais ça ? Enfin, ils ont un super bon débat, qui est une des meilleures scènes du film. Et depuis, ils savent pas l'utiliser. Rappelle-toi dans Civil War où il flotte pendant au moins la moitié de la bataille.
Bah, il pourrait tous les calmer.
Il fait rien pendant la moitié de la bataille. Et sinon, il y a eu quoi ? Ensuite, il se fait arracher la tête.
Ouais, c'est ça.
Ouais, il n'y a pas eu grand-chose avec Vision, alors que là, encore une fois, dans les comics, c'est
un personnage super intéressant et important. Après, du coup, il y a eu quelques images de Falcon et Winter Soldier, mais bon, ça reste. Enfin, les images qu'on a eues sont pas particulièrement surprenante, on va dire.
Bah, on a Daniel Brühl qui revient
en Zemo
et qui a cette fois son masque apparemment.
Ouais, ouais.
Donc ça, c'est cool.
Ça peut faire plaisir. Ouais.
J'aime bien Zemo. T'aimes bien ou... Ouais.
J'aime bien Daniel Brühl et j'aime bien le personnage de Zemo.
J'ai toujours bien aimé Zemo. Ça a toujours été un de mes méchants préférés du MCU et je sais pas pourquoi. Mais c'est parce qu'il y a un côté, un homme tout seul, sans armes, avec rien. Il peut retourner.
Avec des vraies justifications pour faire ce qu'il fait.
Ouais, voilà.
En disant que c'est compréhensible, quoi.
Ouais, il a. Tu sens que les gens de Sokovia, ils ont en général raison de gueuler sur les Avengers.
Et après, du coup, il y a eu une seule image, il me semble, de Loki, où il est en prison.
Ouais, il sourit et il dit un truc, je sais plus quoi.
Ouais, je sais plus non plus, mais bon, Loki en prison, c'est assez habituel dans le MCU, hein. On a l'habitude maintenant.
Et apparemment, c'est à travers le temps et l'espace.
Ouais, donc visiblement, il va traverser les époques.
Mais comment c'est possible? Il a juste la pierre de l'espace.
Bah, il a récupéré le Tesseract.
Ouais, il a la pièce de... Donc il peut se téléporter où il veut.
Ouais.
Mais il peut pas aller dans le temps, ça.
Il me semble avoir lu qu'il y avait des histoires de Valhalla, donc à mon avis, il va y avoir.
Sinon, il peut être malin et il fait comme les Avengers, il va récupérer toutes les pierres en se téléportant tranquille.
Bon, on les passe après avec
lui. Peut-être une mission où en fait. Ils sont tous revenus dans le temps pour piquer les pierres. Au bout d'un moment, il n'y a plus de pierres du tout. On ne sait pas quoi faire. Donc Thanos revient. Avengers 3, c'est Thanos qui revient. Enfin, Avengers 4, pardon.
Oui.
Ouais.
Non, même 5 maintenant.
Hein ?
Avengers.
Ah oui, il y en a 5.
Ultron,
ouais,
Infinity
y en a 5.
War, Endgame. Ça fera 5. Hein.
Ça fera 5 le prochain. Quoi. Mais le prochain, il n'est pas prêt de sortir. Hein.
Non, au moins 3-4 ans, je pense. On peut.
Ouais.
On est large.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le monde ?
On a un projet Sony Marvel qui a été annoncé pour octobre 2021, qui sera donc ni Venom 2, enfin, il y a Morbius et Venom 2 qui sortent cette année.
J'oublie toujours qu'il y a Venom 2 et ça me fait rire à chaque fois.
Et donc il y a un projet pour l'année prochaine qui n'est pas Spider-Man visiblement, donc un nouveau film dont on ne sait pas grand-chose, quoi, qui a été ajouté au calendrier en tout cas, donc à voir si d'ici
il sera
là,
pas Spider-Man
visiblement non, vu que le troisième projet Spider-Man de Sony est avant, il me semble, ou après.
Ok.
En tout cas,
donc, attends.
Ils ont bloqué une date pour un film non défini, quoi.
Bon, c'est pas Morbius.
Non. Morbius 2, peut-être.
C'est pas le Vautour ou un truc dans le genre, parce
oui,
que
ou
voilà,
alors ça
faire...
peut être comment il s'appelle, Kraven, ou enfin il y avait eu des idées de projets sur Kraven.
Ça serait cool ça.
S'ils partent dans leur univers
Kraven
des méchants de Spidey, on peut.
Tu prends Kraven et le caméléon et tu t'amuses. Il y a moyen de faire plein de trucs. Le caméléon, j'adore. Il se fait passer pour tout le monde et tout. Enfin. Et ils sont frères en plus.
Oui.
Ouais, c'est ça, ou demi-frère.
C'est ça. Ensuite, on a du coup cette photo de tournage de Morbius. Je sais pas si t'es passé à côté.
Non.
J'ai l'impression que t'es passé
à
côté.
Je vais regarder. Donc, il y a un bus avec écrit « Où est Spider-Man ?»
Et c'est le logo d'Eli Bugle des versions de Rémi, quoi.
Ah, ok.
Donc, est-ce que c'est un spin-off des films de Rémi?
Ah, mais oui, c'est le même.
Mais oui, c'est le même logo.
Putain, mais ils se font pas chier, ils ont déjà réutilisé le costume. En fait, Sony, ils vont utiliser leur propre truc.
Bah, j'ai l'impression. Hein.
Et
Donc du coup, ouais, pour vous expliquer un peu...
J'ai vraiment hâte qu'on ait une scène avec Tom Hardy et
Jared Leto.
Et Jared Leto. C'est mon plus grand rêve. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
Et du coup, bah, après, c'est les Oscars. Hein.
Ouais, les Oscars.
On a eu
Joker qui a gagné
deux récompenses, ouais.
Meilleur acteur et
meilleure musique. Ça fait 2 années de suite que les meilleures musiques de films sont remportées par des films de comics, hein. Enfin des adaptations.
C'était
de
quoi
comics.
Le premier?
Black Panther l'année dernière.
Ah ouais, mais là il y avait plus de raisons.
Il y avait plus de raisons.
Ouais.
Après le score de Joker est intéressant, je trouve, dans l'ambiance du film, il y joue pour beaucoup.
Ouais, mais c'est qu'il y a des moments dans le film.
Et puis c'est une femme qui
plus
fait la musique aussi.
Plus j'y repense, plus ce film m'énerve. Hein, je tiens à le dire. Vous avez de la chance qu'on l'ait vu, qu'on ait fait l'épisode juste après, parce que là, plus j'y repense, plus ce film m'énerve. La musique. Il y a un moment où c'est parce que la musique elle est déprimante. Hein, d'accord. C'est ce genre
des violons
étirés, comme ça. Ouais. Et d'un seul coup, tu passes à la chanson rock'n'roll où il descend les marches, et il n'y a aucun fondu, il n'y a rien, et ça fait vraiment bizarre, je trouvais, dans cette scène. Je me suis dit, qui a fait le montage de cette scène?
J'ai l'impression que ça se passe dans la tête, quoi, dans sa tête.
Ouais, voilà.
Et puis après, bon, on a le triste record d'Endgame. Je ne sais pas si tu as vu ça aussi, par rapport aux Oscars.
Parce qu'ils ont perdu encore.
Bah, ils ont perdu, mais c'est surtout qu'en fait... Avengers Endgame est devenu le film qui a rapporté le plus d'argent de tous les temps, et donc le plus vu de tous les temps si on compte pas l'inflation. Et à chaque fois qu'un film avait battu ce record, il avait gagné des Oscars. Ouais. T'as Titanic, Star Wars, E.T., Avatar.
C'est Martin
Jurassic
Scorsese,
Park,
il a dit. Martin Scorsese, il a débarqué et a fait. Non.
Avengers n'a rien gagné. Enfin, il était juste
les effets spéciaux. Les effets spéciaux d'Avengers, c'était, c'est pour ça qu'ils étaient nommés, hein, j'imagine.
Ouais. Ça
les
fait deux ans qu'ils sont nommés.
On peut pas cracher sur Thanos. Il est quand même bien foutu. Après, il y aura toujours ce grand problème où quand ils enlèvent leur masque ou leur casque, ça flotte.
Non, mais en fait, les effets spéciaux sont très bons, mais ils n'ont ni rien, ni quoi que ce soit de révolutionnaire, ni quoi que ce soit.
Qui
de...
a gagné
les effets spéciaux, c'est 1917.
Ah, ok, ouais, là, ils se sont fait chier. Même si j'ai pas aimé le film.
Moi, je l'ai pas encore vu, donc je ne pas trop en dire.
Il y a du travail au niveau des effets spéciaux, ça, tu peux pas dire le contraire.
Du coup, voilà pour le tour de l'actu, je crois qu'on a fait le tour. Il y a eu une annonce de casting pour Loki aussi. C'est une actrice qui joue dans Brooklyn Affair, le film avec Edward Norton.
Ah, ok.
J'ai mangé son nom, mais c'est. Voilà, donc c'est la petite annonce qu'on a eue dernièrement, mais sinon, il n'y a pas eu grand chose d'autre.
Il y a Sonic qui sort.
Oui, il y a Sonic qui sort. Ouais.
Je voulais juste le dire. Voilà.
Pas grand chose d'autre.
Il y a Sonic qui sort.
Je suis même pas sûr que j'irai le voir.
Sinon, il y a Jim Carrey qui joue Robotnik.
Oui. Tu sais que c'est presque la seule chose qui me donne un peu envie de voir ce film, c'est de savoir ce que va faire Jim Carrey en Robotnik.
Viens, on fait un riff de 30 minutes sur Sonic. Non, enfin voilà, on a fait le tour. Le prochain épisode, cette fois, parce que je l'ai dit dans l'épisode d'avant, j'ai dit on va faire Lego Batman, mais là, cette fois, on va le faire.
Exactement. Ouais.
Je sais pas, ouais, je pense qu'il sera pas de retour, notre cher Zoltan, mais on lui fait un coucou. Il a toujours pas vu Birds of Prey, donc
non,
il peut pas nous dire ce qu'il en a pensé.
Il nous en parlera plus tard, je pense.
Birds of Prey, pour y revenir, c'est trop d'Harley Quinn, trop d'action.
Oh, t'es dur. Hein.
Non, mais c'est les deux défauts que j'ai avec le film. Sinon, ça va. Mais
et je trouve pas qu'il y ait trop d'Harley Quinn pour le coup, tu vois.
Bah, je trouve que les personnages secondaires.
Il y a pas assez des autres personnages.
On va pas y retourner, mais les personnages secondaires, sont pas assez développés.
Oui, c'est ça.
Et on aurait eu mieux d'avoir plus d'Huntress. Même René Montoya, elle était marrante.
On veut plus d'Huntress, ça c'est clair.
C'est parce que tu veux plus d'Elisabeth machin. Marie-Elisabeth Winstead.
Oui. Bah, moi, je suis amoureux d'elle depuis le jour où je l'ai vue dans Scott Pilgrim. Hein.
Ah oui, c'est vrai qu'elle était dans Scott Pilgrim. Ah, ouais. Et moi, je me rappelle aussi d'elle dans le film de Tarantino. Ouais. C'est tout sinon.
Dans quoi d'autre elle a joué?
Ah, Fargo.
Oui, dans Fargo aussi.
Fargo,
c'est vrai.
Voilà. Bon, moi je sais pas pourquoi on finit sur elle, mais c'est parce qu'on l'aime. Voilà. Allez, à la prochaine. Salut.
Salut. A kiss on the hand, maybe quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat, or help you at the automat. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. But square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. Tiffany's, Cartier, Black Star, Ross Gorham. Talk to me, Harry Winston, tell me all about it. There may come a time when a lass needs a lawyer, but diamonds are a girl's best friend. Time when a hard-boiled employer thinks you're awful nice, but get that ice or else no dice. He's your guy when stocks are high, but beware when they start to descend. It's then that those louses go back to their spouses. Diamonds are